Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Oui, mesdames et messieurs, malgré l'éloge appuyé qu'au livre 2 de ces histoires, Polybe a fait du koinon des Achéens, qui aurait su garantir la liberté et l'égalité à tous ses membres, malgré l'exceptionnelle extension territoriale de cette confédération, parvenant à unifier, ou peu s'en faut, tout le Péloponnèse, malgré le rôle historique majeur joué par les Achéens dans l'histoire de la Grèce au tournant des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, ce n'est pas cet État fédéral qui a été retenu par Montesquieu, on s'en souvient peut-être, comme modèle d'une belle république fédérative. L'auteur de l'Esprit des lois, pourtant grand lecteur de Polybe, la chose est certaine, a préféré porter son choix sur une ligue de cités d'Asie mineure, le koinon des Lyciens, peuple d'origine asiatique, progressivement hellénisé à partir, du 5e siècle, conquis par les Perses, puis par les armées d'Alexandre, dominé par les monarchies hellénistiques, soumise aux Rhodiens, vassalisé par Rome, avant d'être intégré dans l'Empire. Tout paradoxal qu'il puisse paraître à première vue, le choix de Montesquieu s'explique assez bien. Dire que ce fut une solution de facilité serait un peu impertinent à l'égard d'un penseur de cette envergure, car il paraît certain que le grand écrivain fut réellement séduit par le modèle lycien, tel qu'il apparaissait chez Strabon en un tableau synthétique d'une grande clarté. Mais on ne saurait non plus nier que Montesquieu, même s'il ne le dit pas explicitement, dut éprouver une difficulté à faire sienne la prédilection de Polybe pour la Confédération achéenne. Ne serait-ce qu'en raison du fait que nulle part dans son œuvre, cet historien ne donne un aperçu systématique, directement utilisable par un moderne, du fonctionnement de l'État fédéral achéen. Et à cela venait s'ajouter au moins deux autres obstacles d'un ordre différent. Il y avait d'abord, bien sûr, la complexité de l'histoire du koinon achéen, avec des accroissements territoriaux constants qui modifiaient presque d'année en année la carte politique du Péloponnèse. Comment vouliez-vous offrir un modèle de stabilité ou un modèle, un État aux frontières si mouvantes dont les institutions elles-mêmes avaient dû sans doute évoluer? D'autre part, et surtout, était-il raisonnable de citer en exemple une confédération qui, par la faute de ses dirigeants, avait connu une fin aussi catastrophique que celle du koinon achaïon en 146, humilié, complètement détruit par Rome? Non, décidément, Montesquieu ne pouvait se résoudre, même au risque de faire de la peine à Polybe, avec qui il se sentait pourtant bien des affinités, à prendre cette confédération pour modèle d'une belle république fédérative, selon ces mots que vous voyez, que vous avez sous les yeux. La Lycie paraissait offrir de meilleures garanties, car les Lyciens, encore de ces Lyciens, on ne savait effectivement pas grand-chose, tout au plus qu'ils occupaient vers l'angle sud-ouest de l'Asie mineure, un pays entre mer et montagne qu'aucun voyageur moderne n'avait encore alors songé à explorer. On était enclin à penser que cette nation, un peu oubliée de l'histoire, avait été un peuple heureux, vivant à l'écart des grands bouleversements du monde antique. Montesquieu a manifestement été sensible au caractère réputé stable, sinon immuable, du système politique lycien. D'ailleurs, tout ce qui pouvait suggérer un changement, voire une simple évolution dans la constitution des Lyciens, a été soigneusement gommé par lui. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer un peu attentivement la description que fait Strabon du Lyciakon Systema au livre 14 de sa géographie, texte que vous avez dans votre dossier, avec justement le passage du livre 9 de l'Esprit des lois, qui s'en inspire directement. Avant de décrire, d'après l'un de ses devanciers, on y reviendra dans un instant, cette constitution fédérale, le géographe indique que les Lyciens, à la différence de certains de leurs voisins, qui s'adonnaient volontiers à la piraterie, ne se laissèrent jamais emporter par le désir de gains honteux. Et cela même quand les Pamphyliens eurent réussi par leur succès à dominer la mer, dit-il, jusque sur les côtes de l'Italie. Les Lyciens, au contraire, restèrent fidèles à leur antique mode de gouvernement. On peut certes comprendre que Montesquieu n'ait pas cru devoir reprendre cette indication trop ponctuelle et peut-être difficile à décrypter sur le développement de la piraterie. Encore que le fait ne fut pas dépourvu d'intérêt pour juger des Lyciens, puisque ce refus de céder à la tentation d'enrichissement illicite était tout de même quelque chose à porter à leur crédit, la vertu n'étant jamais si belle que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Mais désireux qu'il était de conférer aux institutions lyciennes une valeur permanente, hors de toute contingence, l'écrivain français a supprimé une information qui est alors de première importance. Il n'y a plus trace, en effet, chez lui, d'une réserve pourtant fondamentale que Strabon faisait sur la souveraineté des Lyciens au cœur de son passage. Si, écrit-il, dans le passé, Protéron, les Lyciens délibéraient de la guerre aussi bien que de la paix et des alliances à conclure, il n'en va plus de même aujourd'hui, nulle, puisque ces affaires-là, désormais, sont nécessairement du ressort exclusif des Romains, sauf exception dûment indiquée. De cette restriction, Montesquieu n'a pas voulu tenir compte, car elle jetait comme une ombre au tableau. Si les Lyciens avaient cessé, à un moment donné, d'être un peuple souverain, leur État méritait-il encore d'être tenu pour un modèle de belle république fédérative ? À quoi s'ajoute quelque chose que l'auteur de l'Esprit des lois a pu certes ignorer, mais qu'il aurait été néanmoins en mesure de savoir s'il avait cherché à s'informer plus amplement sur l'histoire de la Lycie, c'est que ce pays, dès le milieu du 1er siècle de notre ère, très peu de temps donc après l'époque de Strabon, avait connu de graves troubles rapportés succinctement par l'historien grec Dion Cassius, d'une part, et par le biographe des empereurs, Suétone. Dès le début du principat de Claude, la Lycie était devenue une province romaine parmi d'autres, perdant ainsi toute forme d'indépendance. La belle confédération des villes de Lycie n'avait-elle donc pas, en fin de compte, connu un destin aussi tragique que le Koinon Achaïon, anéanti par Rome 2 siècles plus tôt? On aurait pu, en tout cas, se le demander. En escamotant ainsi toute allusion aux vicissitudes historiques des Lyciens, Montesquieu paraît avoir jugé préférable de ne pas susciter chez ses lecteurs une telle question. En 1748, le modèle lycien avait cependant encore de beaux jours devant lui. Porté en quelque sorte par l'œuvre de Montesquieu, il fut connu, je l'avais dit au passage, des pères fondateurs de la Constitution américaine lors de la célèbre convention de Philadelphie en 1787. C'est que le remarquable principe de représentation proportionnelle, qui est un des intérêts majeurs de ce texte, avait de quoi séduire des gens en quête d'équilibre fédéral. Si, en fin de compte, le modèle lycien fut écarté, c'est peut-être à cause de l'interprétation erronée qui était faite alors de la phrase, où Strabon évoque la désignation des magistrats et des juges, archai kai dikastai. Montesquieu a malencontreusement pensé qu'il s'agissait des magistrats et des juges élus dans chaque ville par le conseil commun. Autrement dit, cette désignation aurait incombé aux instances fédérales, ce qui pouvait être vu comme un exemple bien fâcheux d'ingérence pouvoir central dans les affaires des États membres. Or, le géographe dit exactement le contraire. C'est à partir de chaque ville, ex ecastes poleos, selon le même système proportionnel, ana logon tais cephais, en fonction du nombre des suffrages, qu'étaient constitués les collèges de magistrats et les tribunaux fédéraux. Que la faute incombe à Montesquieu personnellement ou à la traduction qu'il a pu utiliser, peu importe ici. Toujours est-il que l'erreur fut finalement dénoncée par Edward Freeman dans son History of Federal Government de 1862. Et l'on a vu que cet historien rompait, en fait, avec Montesquieu dans son classement des États fédéraux. Renouant en quelque sorte avec Polybe, il remettait le koinon achaïon au premier rang tout en étant obligé de reconnaître que la Lycie avait une constitution fédérale, à certains égards, plus parfaite. Mais, ajoutait-il aussitôt, la Lycie n'a pas d'histoire digne de ce nom. Et les Lyciens n'ont jamais bénéficié que d'une indépendance toute régionale. Cela n'a toutefois pas détourné Freeman de consacrer à cette confédération des pages qui méritent toujours d'être lues, moins pour la manière dont il a essayé de reconstituer l'histoire de ce peuple que pour ses réflexions sur les institutions fédérales elles-mêmes. À partir de cette date, voilà encore le texte de Montesquieu avec la fameuse erreur sur l'élection des magistrats et des juges. Puis, allons plus loin. Donc, à partir de cette date, disais-je, on peut dire que la Confédération lycienne a quitté le domaine de la philosophie politique, voire de l'utopie, pour entrer de plein pied dans le domaine ou dans le champ des historiens, plus tard des épigraphistes, au fur et à mesure de découvertes archéologiques en Lycie même. Déjà, Gustave Fougère, au sortir de l'école d'Athènes, allait nettement dans ce sens avec la seconde de ses thèses parisiennes, De Liciorum Communi, 1898, exploitant autant qu'il était possible les premières inscriptions connues, notamment l'extraordinaire ensemble de textes découverts peu auparavant par les Autrichiens en Lycie orientale à Rhodiapolis sur l'Héroïn, sur le monument funéraire très élaboré de l'Evergète au Pramoas. En dépit du fait que ce dossier de l'époque impériale ne pouvait être utilisé sans précaution pour compléter le tableau des institutions lyciennes hellénistiques. Peu avant la guerre de 1914, Fougère résumait les connaissances dès alors acquises dans l'article Koinon, donc fédération, du remarquable dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Les Allemands ne furent point en reste. On notera toutefois que l'ouvrage de référence pour les institutions politiques grecques, qui était et demeure à certains égards, la Griechische Staatskunde de Buzolt et Svoboda en 1926, 26, ne contient pas la moindre notice sur la Lycie. Et le manuel beaucoup plus synthétique de Victor Ehrenberg, paru en allemand et en anglais dès les années 1960, mais seulement en 82 en français sous le titre « L'État grec », exécute la Confédération lycienne en une demi-page. Il y a évidemment beaucoup plus à glaner dans les travaux portant spécialement alors sur les États fédéraux, comme celui de Moretti, Ricerche sulle leghe greche de 1962, et surtout celui de Larsen, Greek Federal States, de 1968, dont la section lycienne, d'une vingtaine de pages solides, marque une importante étape à considérer aujourd'hui en fait comme un point de départ pour toute nouvelle recherche. Les travaux plus récents sur le fédéralisme grec ont en revanche laissé les lyciens un peu de côté, soit parce que l'intérêt se portait davantage sur les débuts du fédéralisme jusqu'au IVe siècle, ou sur un aspect particulier, soit encore, j'imagine, parce que cette confédération a semblé trop marginale ou trop peu conforme à une théorie préconçue. J'observe en tout cas que, dans son livre récent sur les relations entre États dans la Grèce antique, qui fait une si large place aux divers koina et qui défend une thèse si tranchée, on l'a vu, sur le fédéralisme, ou plutôt l'absence de fédéralisme dans l'Antiquité, mon collègue de Genève, Adalberto Giovannini, n'a pas un mot sur les Lyciens, comme si à ses yeux, Montesquieu avait décidément fait le mauvais choix, hein, en tenant leur fédération pour modèle d'une belle république fédérative. Il n'est pas sûr, pourtant, que cette opinion négative soit partagée par tout le monde. En 1998, très exactement un siècle après la modeste thèse latine de Fougère, un jeune historien allemand, Ralf Berwald, consacrait une dissertation plus étoffée, assez étoffée, au Lückische Bund, qui apparut en l'an 2000. Et depuis, les études de détail se sont multipliées à l'occasion de diverses trouvailles épigraphiques, dont quelques-unes d'importance majeure. L'une d'elles, encore largement inédite, sera présentée tout à l'heure par notre hôte, M. Denis Rousset. Je voudrais de mon côté consacrer le reste de cette leçon à un aperçu de ce que l'on sait ou devine aujourd'hui de l'histoire du koinon lycien, pour voir dans quelle mesure ces institutions si intéressantes sont éclairées par le témoignage des inscriptions. Il s'agira de s'interroger en même temps sur l'origine de la constitution fédérale lycienne. Est-elle une invention des Lyciens, comme on l'admet implicitement dans le sillage de Strabon et de Montesquieu, ou y a-t-il éventuellement un modèle historique à découvrir derrière cette belle construction dont le souvenir a traversé les siècles? Mais question préalable, par quelle voie le géographe Strabon a-t-il eu connaissance du Lukiakon Systema, comme il le dit, au point de pouvoir en décrire assez précisément les éléments essentiels, alors que rien n'indique qu'il ait visité lui-même le pays? Il n'est pas besoin de faire une enquête philologique sur les sources de la géographie pour pouvoir affirmer qu'il devait cette description, apparemment bien documentée, à l'un de ses principaux devanciers. Car il renvoie lui-même pour la liste des 6 villes qui occupait une position de premier rang dans le système lycien à Artemidore. Vous avez le texte dans votre dossier. Exipoleis effe o Artemidoros. Et de citer ensuite, d'après lui, les 6 toponymes. Je ne sais pas si le texte va apparaître. Peu importe. Cet Artemidore, natif d'Éphèse, est relativement bien connu et il a même défrayé la chronique tout récemment en Italie à propos d'un papyrus géographique dont l'authenticité a été mise en doute par certains, mais évidemment, je ne m'aventure pas dans cette affaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'Artemidore a dû composer son œuvre vers 100 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une espèce de périple de la Méditerranée reposant sur une connaissance directe des lieux, mais où l'on trouvait également des informations relatives au culte, aux traditions, à l'histoire des cités. Car Artemidore était en même temps un homme politique. Il était allé, comme le rappelle Strabon, en ambassade à Rome pour défendre les intérêts de sa cité avec succès contre les publicains. Il est certain que Strabon lui a beaucoup emprunté, même s'il le critique à l'occasion, surtout pour cette Asie mineure occidentale et méridionale que Strabon connaissait beaucoup moins bien que la côte nord de la péninsule. Dans ce même livre 14, c'est à Artemidore que doit remonter la mention de l'association des bourgs cariens autour du sanctuaire de Zeus Chrysaoreus, près de Stratonicée. Le Chrysaoricon Systema, justement. De même que le Systema, de nouveau le même mot, qui s'est constitué autour de la ville de Kibira, ce qu'on appelle la tétrapolis de Kibira, au nord-est de la Lycie. Strabon fait non seulement usage dans les 3 cas du même terme systema, typique de la langue hellénistique, attesté d'ailleurs en Ionie aussi, et dans les 3 cas, il évoque le système représentatif adopté par ces associations de cités, qui sont du reste voisine. Cette convergence ne saurait guère être fortuite. La chose est évidemment importante pour la chronologie, puisque cela autorise à faire remonter sensiblement avant le temps de Strabon, c'est-à-dire l'époque d'Auguste, la date où le koinon des Lyciens était organisé à la manière qu'il indique. Il faut néanmoins faire le départ entre l'auteur et ses sources, car dans ce passage, tout ne remonte pas à Artémidore. Ainsi peut-on, de prime abord, s'interroger sur la question de savoir à qui attribuer la paternité de la remarque faite à propos de l'attitude des Lyciens vis-à-vis de leurs voisins, adonnée à la piraterie, on l'a vu. Étant donné que cette côte sud de l'Asie mineure fut infestée de dangereux pirates dès l'époque d'Artémidore, en tout cas, ce qui oblige à Rome, on le sait, à renforcer la police des mers dans ce secteur, en témoigne une très célèbre inscription, deux inscriptions reproduisant la loi des piratis persequendis, qui date justement des années 100 ou 99 avant Jésus-Christ. On pourrait être tenté d'y voir un emprunt de Strabon à l'écrivain d'Éphèse. Mais en réalité, il ne fait pas de doute que c'est le géographe lui-même qui a introduit la notice sur les deux interventions romaines qui, plus tard, débarrassèrent les Lyciens de ce fléau, pour un temps au moins. D'abord, la campagne de Servilius Isauricus, c'est à la fin du passage que vous avez, que j'essaye de retrouver. Le texte ne veut pas venir. Ce consul très actif en Pamphylie dans les années 78-75, jusqu'en Lycie même, puis l'intervention de Pompée le Grand, qui, comme le rappelle justement notre auteur, refonda la ville cilicienne de Soloï en 67, sous le nom de Pompeiopolis. Or, c'est bien vers 70 que les pirates pamphyliens poussèrent l'audace jusqu'à fréquenter ou aborder sur les côtes de l'Italie, aux abords d'Ostie. Dès lors, si l'on prend en considération l'ensemble du passage relatif à la constitution lycienne, on ne saurait douter que ce morceau, emprunté assurément à Artémidore, est encadré par des observations d'ordre historique dû à Strabon lui-même. Et cette conclusion nous autorise, je crois, à affirmer que dans la phrase si importante sur la souveraineté des Romains, vous avez le texte là, grec sous les yeux, l'adverbe « nun », maintenant, se rapporte bien à l'époque de Strabon, même si d'aucuns ont cru devoir laisser la chose ouverte, tandis que le protéron, qui précède, renvoie à celle d'Artémidore, donc près d'un siècle plus tôt, qui devait décrire la constitution comme celle d'un État souverain, sans faire aucune mention des Romains. Strabon estime donc nécessaire de rectifier ou mieux d'actualiser cette description en signalant que si les Lyciens ont pu continuer à se gouverner librement aux côtés des Romains, par Romaios, Eleuteroios, Diatelesai, ta patria Nemousi, c'est qu'ils ont sagement renoncé à délibérer de politique étrangère. Nun duc eikos al epitois Romaios, taut ananke. Donc, dans l'histoire du koinon lycion, il y aurait un avant et un après, une période d'entière indépendance précédant le moment où une partie de la souveraineté nationale aurait été perdue au profit de Rome. Un tel schéma est si commun à l'époque qui nous intéresse que l'on est tenté de l'accepter sans autre examen comme une évidence. N'est-ce pas le sort qu'on subit en Asie mineure tous les États hellénistiques, des cités les plus modestes aux royaumes les plus florissants. Il n'empêche que dans le cas des Lyciens, un doute est permis sur le bien fondé d'une distinction entre deux phases aussi contrastées. Je ne parle pas bien sûr du changement qui devait se produire peu de temps après l'époque de Strabon avec la réduction de la Lycie en province romaine. En fait, cela pose la question de savoir quand la confédération lycienne a vu le jour. Certains y ont vu, assez naturellement, une très vénérable institution dont les origines se perdraient plus ou moins dans la nuit des temps. Assurément, le peuple des Lyciens doit être norse. Et forontien, avec une identité linguistique et culturelle qui tout à la fois le rapprochait et le distinguait des autres peuples indigènes de l'Asie mineure. Mais cette ancienneté de l'ethnos ton lycion, dont la civilisation a été révélée, vous le savez, par des découvertes très spectaculaires, ne permet pas de préjuger de l'histoire du koinon lui-même, c'est-à-dire d'un organisme politique réunissant tout ou partie des communautés lyciennes à l'époque hellénistique. De fait, il n'y a pas trace d'une confédération, me semble-t-il, avant ce qu'on appelle la basse époque hellénistique, deuxième, premier siècle avant. Dans son essai de 1962 sur les Ligues grecques, Moretti pensait pouvoir alléguer en faveur d'une datation dès à la fin du IIIe siècle déjà, le fait qu'apparaît alors, il est vrai, dans quelques inscriptions à l'extérieur de la Lycie, l'ethnique Lukios, accompagné ou non d'un nom de ville. Lukios ek xantou. Mais il faut dire et répéter que cette façon de désigner un personnage, qui certes peut avoir son intérêt, ne permet jamais de prouver à elle seule l'existence d'un koinon, d'une confédération, puisque l'unité ethnique et géographique suffit déjà à la justifier. Larson, de son côté, dans sa très méritoire synthèse de 1968, avançait la date de 200 environ pour les débuts du koinon lycien, soit juste avant que la Lycie ne passât de la tutelle des Ptolémées d'Égypte sous la domination du roi Séleucide d'Antiochos III le Grand. Mais aujourd'hui, on est enclin, de façon assez unanime, je crois, à descendre plus bas encore. D'un côté, en effet, on constate que les documents datant sûrement de la fin de la période ptolémaïque, ou même déjà de la courte période séleucide, entre 197 et 190 avant notre ère, ne font nulle mention d'une confédération lycienne. Certes, l'argument ex silentio, comme on dit, est d'un maniement délicat, mais cet indice a tout de même un certain poids quand on en a affaire, par exemple, à une inscription telle que la stèle dite des Kyténiens, trouvée dans les fouilles françaises du Letouan dès 1965, mais publiée seulement en 1988 par Jean Bousquet, où l'on voit une communauté de Doride, en Grèce centrale, venant solliciter par l'intermédiaire de ses ambassadeurs en tournée dans la région carolicienne, la générosité des gens de Xanthos en Lycie, après une catastrophe naturelle et un grave revers militaire survenu 20 ans plus tôt. Il est frappant de ne point entendre parler du koinon lycien en pareille occasion, puisque les gens de Kyténion, comme ils ne manquent pas d'ailleurs de le rappeler, faisaient eux-mêmes partie d'un État fédéral, celui des Étoliens, et qu'ils alléguaient en faveur de leur cause des liens mythiques de parenté qui valaient au moins autant pour l'ensemble des Lyciens que pour la seule cité de Xanthos. Et cela dans un sanctuaire où on a trouvé la stèle qui était appelée à devenir le sanctuaire fédéral par excellence du koinon. Pas trace non plus de l'État fédéral dans d'autres décrets de Xanthos récemment publiés, alors même que leur appartenance aux années 190 est absolument assurée. Mais ce qui avait surtout amené Larsen, dans un article de 1956, déjà, puis dans son manuel, à admettre une date relativement haute, c'est une inscription qu'avait fait connaître l'anglais George Bean dans, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, le décret désormais assez fameux d'Araxa, ville située dans la haute vallée du fleuve Xanthos, on entendra parler tout à l'heure encore, pour Orthagoras, dont toute l'action politique au service de ses concitoyens est rapportée avec un grand luxe de détails, c'est l'inscription que vous avez dans votre dossier. Ce beau document, en effet, semblait devoir être daté des alentours de 180, en dépit d'une paléographie qui n'était pas très favorable à cette datation, ce qui impliquait que la carrière d'Orthagoras avait commencé une bonne vingtaine d'années plus tôt, soit des avant 200. Or, il est la question, à plusieurs reprises, du koinon lycien. La chose là est tout à fait claire. Eisten, tout Lucion, Lucius Sumpolitean, puis koinon également. Avec cette expression que je viens de faire lecture, à propos de l'action d'Orthagoras, qui travaille à la libération d'une petite cité hors Loanda, pour que celle-ci puisse entrer dans la Sumpolitea. Expression où Larsen pensait voir la plus ancienne attestation épigraphique du terme Sumpolitea pour désigner un État fédéral, ce qui n'est certainement plus tout à fait vrai aujourd'hui, si cela l'a jamais été, puisque l'expression vient d'apparaître, on l'a vu la semaine dernière, dans la nouvelle inscription de Mécène datée de 182. Donc, à l'époque où Orthagoras jouait le rôle d'intermédiaire entre Araxa, sa patrie, et les instances fédérales, le koinon existait, certes, mais il était peut-être encore en phase de formation, avec des guerres incessantes contre divers peuples sur la frontière septentrionale. Mais l'inscription montre aussi que même de grandes cités de la plaine, je ne sais pas si on retrouve la photo, c'est-à-dire évidemment Xanthos et ensuite le Patara ou la ville de Tlos, pouvaient être l'objet de coups de force menés par des condottières sans foi ni loi. Bref, à ce moment, on peut dire que l'insécurité règne jusqu'au cœur du pays et l'armée fédérale, quoique déjà passablement active, paraît encore loin de pouvoir assurer l'ordre en tout lieu. Mais ce qui est le plus intéressant pour la date du décret, ce sont, on peut dire, les informations ou les données romaines, c'est-à-dire la mention d'abord de deux groupes d'ambassadeurs para-romaïon, la ligne 63 suivante, l'une dirigée par Appius, l'autre par Poplius. Cette façon de désigner les chefs romains par le seul praenomen est un précieux indice d'ancienneté relative. Puis surtout, chose capitale, la référence à une fête instituée par la Confédération en l'honneur de la déesse Roma, hein, Roma Théa, ou Romae Théa Epiphanes. Faite à la première célébration de laquelle Orthagoras fut envoyé comme ambassadeur sacré, comme Théoros, par sa cité. Il retourna au même titre 4 ans plus tard, car la fête était quadriennale, ou si l'on veut, pentétérique, ce qui révèle d'ailleurs son importance aux yeux des Lyciens. Et c'est juste après le rappel de ces deux ambassades sacrées que le décret s'interrompt, donc, pour nous, accidentellement, par la cassure de la pierre. Ce sont évidemment ces indications qui ont d'emblée obligé les érudits à placer le décret après la défaite d'Antiochos à Magnésie, quand Rome, en 189, décide de faire don de la Lycie, comme aussi de la Carie, qui s'était trouvée dans le camp des vaincus, à son allié, la grande cité de Rhodes. C'est donc au lendemain de cet événement mémorable que les Lyciens auraient tenu à manifester leur reconnaissance aux vainqueurs en instituant des Romaïa, fêtes pour la déesse Rome. Et ce concours est attesté par un catalogue important, trouvé naguère dans les fouilles de Xanthos, ce qui révélait d'ailleurs du même coup que cette ville avait été choisie comme lieu de célébration de la fête fédérale. Louis Robert, dans la publication du document en 1978, avec un très beau commentaire agonistique, on peut dire, adoptait là encore une date haute, vers 180, pour le décret et donc pour l'institution des Romaïa. Aujourd'hui, en revanche, sur la base d'arguments difficilement contestables, il y a unanimité, ou peu s'en faut, chez les historiens pour penser que ce culte ne saurait avoir été instauré avant 167, quand les Lyciens furent libérés par Rome de la pesante tutelle rhodienne. Voyons alors quelles conséquences doit avoir ce réajustement chronologique auquel j'adhère entièrement, en relation aussi avec d'autres concours portant ce même nom de Romaïa, pour l'histoire même de la Confédération lycienne, puisque le décret en l'honneur d'Orthagoras est nécessairement postérieur à la seconde célébration des Romaïa, Orthagoras y a participé, donc ou plutôt à l'année 163, on peut le dater avec confiance des années 160-150, car il paraît difficile, voire impossible, d'abaisser la date encore davantage, jusque vers 120, comme le prône ou le prônait certains. Et c'est donc dans la période de domination rhodienne qu'il faut situer les événements tumultueux auxquels Orthagoras, ce personnage, fut mêlé durant toute la première partie de sa carrière, donc entre 189 et 167. De fait, le don de la Lycie aux Rhodiens fut très mal accueilli par les cités de ce pays. Dès avant 180, donc peu après le don lui-même, les Lyciens, au témoignage de Polybe, au livre 24, étaient en guerre ouverte contre Rhodes, au point d'obliger cette cité à faire appel à Rome. On peut donc penser que c'est précisément contre cet adversaire commun que les Lyciens forgèrent, en quelque sorte, leur union politique. Ce n'est sans doute pas un hasard si le premier document attestant formellement l'existence d'un koinon lucyon date précisément de la fin des années 180, document que l'on connaît depuis assez longtemps, qui se trouve au musée égyptien de Turin, et où il y a une mention du koinon, ou même deux mentions du koinon ton lucyon, et la prosopographie, l'étude de ce texte, permet de le dater très exactement de l'année 182. C'est peu de temps après que se place l'épisode jugé par Polybe digne d'être rappelé en détail, au livre 25-4. C'est l'envoi, je crois que j'avais ce texte ici, l'envoi en 177, donc 10 ans après la Dorea, d'une ambassade lycienne à Rome, à un moment où la résistance lycienne menaçait d'être totalement brisée. On notera que cette ambassade, menée, selon toute apparence, par les gens de Xanthos, qui est une cité moteur dans cette affaire, fit étape en Achaïe, où les chefs achéens, dont Polybe, durent lui prêter une oreille attentive, comme le firent les sénateurs eux-mêmes. Dès alors, Rome apporta son soutien moral aux Lyciens contre Rhodes, sans revenir pour autant sur le don, la Dorea, qui avait été faite aux Rhodiens. Mais quand ceux-ci, en 167, eurent perdu la confiance des Romains, la Lycie fut déclarée libre par le Sénat, Polybe le dit aussi à plusieurs reprises. Il n'est donc pas étonnant que les Lyciens aient instauré alors, et seulement alors, un culte de Roma et la fête des Romaïa. Née dans la douleur, on peut le dire, la Confédération lycienne accédait ainsi au statut d'État souverain, mais sous protectorat romain, bien entendu, car pas plus que le roi de Pergame ou la cité de Rhodes, les Lyciens n'avaient les coudées entièrement franches. Ils pouvaient néanmoins, en principe, décider de tout, y compris de la guerre et de la paix avec leurs voisins. La période qui s'ouvrait en 167 paraît du reste avoir été bien plus tranquille que la précédente. C'est donc bien à cette époque que doit faire référence le protéron que Strabon oppose, on s'en souvient, au nun, désignant son propre temps. Restera à situer plus exactement encore le tournant entre ces deux phases. Dans l'immédiat, il convient de s'arrêter un instant sur la remarquable constitution dont le géographe devait la connaissance à Artémidore, car cette politéia, qui ne faisait certainement pas du Lukiakon Systema, disons-le d'entrée de jeu, un état unitaire très loin de là, doit avoir été mise en place au plus tard en 167, peut-être dès l'année 177, quand les Lyciens purent compter sur le soutien des Romains, d'une part, celui des Achéens, d'autre part. Le trait le plus remarquable de cette constitution, c'est évidemment le classement des villes lyciennes en trois catégories. Les grandes cités, Mégalae, les moyennes, Messae, et les petites, Micrae. Leur nombre était alors apparemment fixe, ou du moins ne changeait-il que lorsque les autres cités acceptaient de faire entrer un nouveau membre. On a vu que ça avait été le cas très tôt dans l'inscription pour Ertagoras de la petite ville, pratiquement inconnue par ailleurs, d'Orloanda. Artémidore a fourni à Strabon le nom des six villes de la première catégorie, les plus grandes, à savoir Xanthos, on l'a déjà vu, c'est la vallée du Xanthe joue un très grand rôle, Xanthos, avec Pinara, un peu plus au nord, avec Patara, le grand port, Olympos, une ville, alors, qui doit être cherchée, qui n'est pas sur la carte, mais qui est près d'ici, vers l'est, direction de Phaselis, Myra et Klos, avec Myra, bien connue, au sud, et Klos, on revient vers la vallée du Xanthe. Il semble que ce nombre de six soit resté stable jusqu'à l'époque impériale. C'est du moins ce que suggère une inscription de Xanthos, mais émanant du Koinon, qui a été publiée en 1981 et qui est venue ainsi enrichir l'abondant dossier des libéralités du bienfaiteur Opramoas, dont vous avez vu tout à l'heure l'Héroïne, Opramoas de Rhodiapolis, ce virtuose de l'évergétisme, comme aimait à le qualifier mon éminent collègue Paul Venn, qui, dans son livre de 1976, le bien connu, le cirque, ne pouvait pas encore alléguer ce document-ci. Opramoas s'y présente en effet, sous l'empereur Antonin, non seulement comme Rhodiapolites, sa patrie, mais aussi comme Mureus, Patareus, Cloeus, Xanthios, Telmesseus et Limureus. Il y a cette série d'ethniques à l'accusatif. Cette liste limitative, même si elle est relativement longue, attire l'attention car elle aurait pu être beaucoup plus longue, dans la mesure où Opramoas s'est dit par ailleurs exercer la citoyenneté dans toutes les cités de Lycie, Politeion menos de Kai en Tais Catalukian Polesi Passais. Expression qui a suscité beaucoup de discussions et dans laquelle je n'entrerai pas ici. On notera seulement au passage qu'à l'époque hellénistique, avant donc, les Lyciens n'étaient citoyens, certainement, que dans une seule cité. Comme le souligne très justement l'éditeur de cette inscription, André Ballin, on a là le reflet d'une réalité institutionnelle, puisque le document est fédéral. De fait, il n'est pas trop malaisé d'y voir la liste, en quelque sorte mise à jour, des six mégistai poleis de la constitution d'Artémidore. Car la ville d'Olympos, qui figure chez Strabon Artémidore, détruite par les Romains lors de l'expédition d'Isauricus en 78, ne recouvra jamais sa position d'antan. Son remplacement par Limura, qui est devenue une cité extrêmement importante plus tard et à l'époque impériale, pourrait d'ailleurs avoir précédé cet événement déjà, puisqu'au lendemain de la guerre contre Mithridate, vers 80, une liste de cités ayant accepté, je l'ai plus loin, une liste de cités ayant accepté ce qu'on appelle l'asilie d'un sanctuaire carien à Lagina, vers 80 donc, avant, donne seulement six villes, c'est frappant, ce sont les six grandes, Patara, Xanthos, Pinara, Klos, Limura et Mura. Donc déjà Limura ici a remplacé apparemment Olympos. Pinara, en revanche, vous le voyez, est toujours présente. Cette vieille cité lycienne paraît cependant avoir perdu de sa force à l'époque impériale, d'où son remplacement, très vraisemblable, plus tard, par la grande cité de Termessos, accédant au rang de Proteiousai Poleis. Pour ce qui est des deux autres catégories de villes, on est moins bien informé, parce que Artémidore n'en dit rien. Les Poleis, dites Messai, médiocres, comme disait Montesquieu, devaient être au moins une demi-douzaine. Les Micrailles étaient sans doute plus nombreuses, une dizaine, voire exactement 11, si le total de 23 se décomposait en 6, plus 6, plus 11. Disposant de 3 suffrages chacune, les 6 grandes villes avec 18 voix au total n'auraient donc pas pu l'emporter à elles seules dans les scrutins, puisque l'union des villes moyennes avec les petites villes, soit 12 plus 11, 23 au total, aurait pu leur faire barrage. La question qui se pose, à vrai dire, est celle de savoir si ce chiffre de 23 cités est resté stable. Vers 150 avant Jésus-Christ, cela s'accorde assez bien, même très bien, avec le témoignage des émissions fédérales, ou avec les types fédéraux de l'Apollon et de la cithare, des monnaies cithares fort, où apparaissent effectivement en abrégé, il y en a quelques spécimens ici, en abrégé des noms de cités, comme Xa, Xanthos, Iduma, Pinara, et on aurait pu allonger la liste. Il est vrai qu'il n'y en a pas 23, mais environ 16 ou 17 qui ont émis un monnayage fédéral à l'époque hellénistique. Mais à l'époque impériale, avec l'extension du koinon, l'apparition de plusieurs villes nouvelles, leur nombre a dû croître sensiblement. Le stadiasme de Patara, document du 1er siècle de notre ère, sur lequel je reviendrai pour conclure, en énumère à lui seul plusieurs dizaines, dont certes le statut est souvent matière à discussion. Une trentaine de poleis, liste établie récemment, sont attestés apparemment comme tels au second siècle de notre ère. Dès lors, il paraît clair que dans l'hypothèse où le nombre des États membres auraient été fixes pour des raisons constitutionnelles, la liste nominative des cités était susceptible, elle, de variations, sans parler de leur répartition, de leur passage d'une catégorie à l'autre. On en a un cas à l'époque impériale pour la petite ville de Boubone qui reçoit un suffrage supplémentaire qui la fait passer dans les catégories des grandes. Sur l'usage pratique que les cités faisaient de leurs 3, 2 ou unique suffrage, l'opinion des érudits a été passablement flottante. Il est vrai qu'Artémidore, chez Strabon, parle sans autre précision de la participation à un koinon synédrion. Beaucoup d'auteurs, depuis Freeman, ont vu dans ce synédrion fédéral l'assemblée primaire, en quelque sorte et souveraine, du peuple lycien. Et pour deux raisons au moins. D'abord parce que, mais cela me paraît difficile, je dis, parce que d'un côté, le mot synédrion ne peut pas désigner une telle assemblée, je crois qu'on n'en a pas d'exemple ailleurs. Un synédrion est toujours un conseil, quel que soit le mode de désignation de ses membres. Ensuite et surtout parce qu'on ne voit pas comment, dans une telle assemblée générale, primaire, les villes auraient pu être représentées proportionnellement à leur taille. Il semble exclu de songer à un vote par cité, par unité, à la romaine, si l'on veut, même si l'on a cru pouvoir, on s'en souvient peut-être, l'admettre en Béotie et en Achaïe sur la foi d'expression utilisée par Tite-Live, mais jamais par Polybe. Le koinon synédrion des Lyciens ne doit faire en réalité qu'un avec la boule fédérale qui est attestée à l'époque impériale, ou en tout cas ou à une commission présidentielle de cette boule. Cela n'implique évidemment pas l'absence d'une assemblée primaire dans cet État. Une assemblée électorale, d'ailleurs, est attestée, une archaïresiaque ecclesia est attestée à l'époque impériale. Cela n'implique pas non plus que le synédrion en question ait été un conseil très restreint, d'une cinquantaine de membres seulement, 51 membres, si l'on admet les chiffres de 18, 12 et 11 suggérés il y a un instant. Le nombre des suffrages exercés par chacune des cités pourrait bien avoir été en fait qu'une clé de répartition. De fait, à l'époque impériale, le koinobulion, expression nouvelle peut-être de cette époque, est d'abord le conseil fédéral lycien, même s'il désigne plus globalement aussi les divers organes de gouvernement englobant les magistrats et les dignitaires actifs à l'Ecclésia. Or, ses membres sont beaucoup plus nombreux, puisque l'éditeur des nouvelles inscriptions de Xanthos, Pouropramoas, a pu inférer du montant des revenus de la fondation instituée pour tous ces koinobouloi que ceci était au nombre de 2000. Cela peut paraître beaucoup pour un conseil, mais il est avéré que le conseil des Étoliens, par exemple, celui des Achéens également, comptait chacun plus de 1000 membres. Ces nouvelles données sont donc loin de contredire l'hypothèse déjà ancienne de Larsen, selon laquelle les Lyciens auraient beaucoup emprunté au koinon achaïon. Et bien au contraire, il me semble que ce rapprochement s'impose aujourd'hui avec plus de force que jamais. On a vu, en effet, que la répartition des cités en trois catégories, avec respectivement 3, 2 et un seul suffrage, existait bel et bien dans cette confédération achéenne dès avant la fin du IIIe siècle, comme le montrent les listes, aussi bien celle d'Épidaure que celle d'Aegion, publiée tout récemment par Rizakis. C'est également le modèle achéen, réformé par Philippe Hémen quelques années plus tôt, que les Lyciens ont dû suivre en renonçant à établir une capitale permanente pour leur lieu de réunion, de peur sans doute qu'une cité n'acquiert un poids excessif au sein de leur confédération. D'autres emprunts encore sont décelables, sur lesquels je passe ici. Les Lyciens avaient d'autant plus de raisons de s'inspirer de l'exemple achéen que dans les années 180 et en 177 encore, quand, vous en souvenez, une ambassade lycienne passe par Aegion devant le synodos achéen, le koinon achaïon était en Grèce le plus sûr allié des Romains et qu'il entretenait également les meilleures relations avec le royaume lagide, qui est une d'autres États protecteurs de la Lycie. À la veille de la libération de la Lycie, donc en 168, Polybe, alors hipparque, avait plaidé devant la synodos réunie à Corinthe pour l'envoi d'une expédition de secours en Égypte. Et gageons que si ce projet s'était réalisé, l'escadre achéenne eût fait escale à Patara ou dans quelque autre port lycien. Mais la grande puissance protectrice du koinon lukion, ce fut naturellement et dès le début la République romaine. Entre les deux États, le rapport de droit et de fait ne fut cependant pas immuable. Certes, on savait que si l'un avait confirmé la liberté des Lyciens en 85, au lendemain de la guerre contre Mithridate, puisque le koinon avait été l'un des rares États en Asie mineure à prendre fait et cause. Pour les Romains, cela, c'est Appien qui nous le dit très clairement dans ses Mithridatica. Et l'engagement des Lyciens aux côtés des Rhodiens est confirmé aujourd'hui par une inscription, même plusieurs, d'Oxanthos, qu'ont publié tout récemment nos jeunes collègues canadiens Baker et Thériault, où l'on voit le peuple lycien est récompensé par le koinon, le peuple de Xanthos, par le koinon, pour avoir combattu le roi Mithridate. Et dans l'intérêt de l'hégémonia, de l'imperium des Romains et de l'Eleutheria des Lyciens. C'est la même idéologie, en fait, qui s'exprimait déjà dans l'inscription bilingue du Capitole de Rome, connue depuis longtemps, avec une mention, donc une consécration d'une statue de Roma, romain, à Rome même, probablement dans ces mêmes années 80, avec une mention intéressante de la démocratia, c'est-à-dire en fait du régime républicain. Mais la grande nouveauté est ailleurs. Elle réside dans la découverte, ou du moins dans la publication, à quelques années d'intervalle, de deux traités entre le Koinon et les Romains. Certes, le fragment provenant, de façon peut-être un peu surprenante, d'une bourgade Tiberissos près de Myra, un fragment d'un traité, bon, la reproduction vaut ce qu'elle vaut, qui nous est parvenu de manière très fragmentaire, mais dont l'éditeur, Christophe Schuller, avec beaucoup de mérite, en 2007, a pu restituer pratiquement l'entier, grâce à des parallèles d'autres traités entre Rome et les collectivités grecques. Mais évidemment, ce traité ne satisfait que partiellement notre curiosité, puisque justement l'absence d'indications spécifiques qui ont permis la restitution interdit pour le moment de le dater plus exactement que la basse époque hellénistique. Il s'agit en tout cas d'un traité conclu, on peut le dire, sur pied d'égalité, hein, foedus aequum, qui pourrait être celui que celle-là, l'alliance, évidemment, dès 167 entre Rome et le Koinon. On y verra plutôt, d'ailleurs avec l'éditeur, un renouvellement de l'alliance défensive, purement défensive, soit au moment de la création de la province d'Asie en 129, soit vers 100, quand Rome dut combattre pour la première fois, on s'en souvient, contre les pirates, ou alors seulement vers 85, quand Sylla, on vient de le rappeler, fit appel à la loyauté des Lyciens pour lutter contre Mithridate. En tout cas, le statut du Koinon vis-à-vis de Rome ne paraît pas avoir été modifié par ce traité-ci. Hein. Un traité qu'on peut, je crois, sans vouloir lui enlever sa valeur, de traité de routine d'une certaine façon. Beaucoup plus important et original est à coup sûr une stèle de bronze parvenue naguère en Norvège, bien loin de son lieu de trouvaille, lieu de trouvaille d'ailleurs inconnu, et peut-être vaut-il mieux jeter le manteau de Noé sur les circonstances de sa découverte, en quelque endroit de la Lycie, sans doute Xanthos, dans des circonstances mystérieuses, et à une date réputée ancienne, ou assez ancienne, éventuellement pour le besoin de la cause. La publication a été donnée de ce texte en 2003 par l'excellent connaisseur de l'Asie mineure, romaine surtout, qu'est notre collègue britannique Stephen Mitchell. Je ne vous montre qu'une partie du texte, que le début, car il s'agit d'un document très long. Et à l'inverse du précédent, c'est un acte datable au jour près, le 24 juillet 46 avant Jésus-Christ, et dont l'inspirateur indirect, en tout cas, n'est pas le premier venu, puisqu'il s'agit de César en personne, alors dictator pour la troisième fois. Ce qui ressort de ce traité, c'est que les Lyciens, tout en conservant leur autonomie, doivent reconnaître, on peut le dire, la suprématie romaine. Uperoque, maiestas, et également sa puissance, son pouvoir, exousia, potestas. Donc là, c'est le type même du traité inégal. Foedus iniquum. Par ailleurs, le koinon lycien, cependant, donc, se voit garantir ses frontières, dont une délimitation très précise, laquelle je n'entre pas évidemment ici, est donnée pour certains secteurs contestés. Le traité contient également une clause judiciaire de très grande importance concernant les citoyens romains résidant en Lycie. Bref, les Lyciens sont alors, dès 46, sous liberté conditionnelle, ou du moins surveillée. C'est donc à partir de cette date, ou plus tard, que commence pour eux la période introduite par le maintenant de Strabon, le nunc de ce Strabon qui, à l'époque de l'assassinat de César, en 44, avait juste 20 ans. Cet événement brutal ne resta pas sans conséquence pour les Lyciens, malgré leur éloignement relatif. On peut dire qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore tout à fait intégrés dans l'Empire, mais bien près de l'être. Et d'ailleurs, dès 42, ils sont placés devant l'obligation de choisir, non pas entre Rome, qui sont leurs alliés, qui sont son alliés, ou d'autres puissances, mais à l'intérieur même de l'État romain, qui est partagé entre deux camps ennemis. La plupart des villes lyciennes refusèrent d'obtempérer aux exigences financières, notamment de l'un des tyrannicides, de Brutus. Il y eut de sa part attaque à main armée contre Xanthos. C'est alors que survient un des événements les plus tragiques de l'histoire de cette ville et des Lyciens plus généralement, dont on a le récit dans plusieurs auteurs, où la population s'immole collectivement, on peut le dire, en se jetant dans les flammes allumées, d'un incendie allumé apparemment accidentellement. Mais un dernier et faible sursis de liberté est encore accordé ainsi aux Lyciens après 42, avant, jusqu'à ce jour de l'an 43, où l'empereur Claude décide abruptement, selon toute apparence, de réduire la Lycie en province. Lycie qui, encore une fois, était déjà très intégrée, et on voit que même le monnayage des villes lyciennes ou du koinon lycien arbore l'effigie d'Auguste en particulier. Et cela à la suite, semble-t-il, de troubles qui avaient entraîné, chose impardonnable, la mort de citoyens romains. Les effets de cette mesure impériale sur la vie administrative apparaissaient depuis longtemps dans une foule d'inscriptions où apparaissaient une suite de gouverneurs, notamment de rangs prétoriens, placés directement sous l'autorité de l'empereur. Cette liste s'ouvre par le nom de Quintus Veranius, qui, dès 41 de notre ère, avait justement acquis la confiance de l'empereur Claude lors de la fameuse expédition de Bretagne. Et son nom figure désormais en bonne place, et même en deux places, sur l'étonnant monument qui a été mis au jour, on peut dire pierre à pierre, je vais tâcher de le faire apparaître, le voici, par les archéologues turcs dans le port ensablé de Patara, promu au rang de capitale de la nouvelle province. Le millière géant que les Lyciens, fidèles alliés, amis de Rome et de César, disent-ils, philo romaioi kai philo caesares pistoi summacoi, décidèrent en l'an 45-46, donc deux ans après l'annexion, de consacrer à l'empereur Claude, sauveur de leur peuple, qui, dit toujours le texte, par sa divine providence, on peut voir le texte là sur deux colonnes, sa divine providence, les avait débarrassés de la révolte, stasis, de l'anarchie, anomia, des brigandages, lesteiai, en leur permettant de retrouver la concorde, homonoia, l'équité judiciaire, isse dikaiodosia, et leurs lois ancestrales, patrioi nomoi, après que le gouvernement de l'État eût été confié par une majorité incompétente, si le texte est bien lu et compris, aux conseillers désignés parmi les meilleurs. Donc une phase sur laquelle que l'on veut effacer. Au-delà de son immense intérêt pour la géographie historique, puisque le millière élevé par les soins du gouverneur Veranius, justement, au nom de l'empereur Claude, avec la mention de plus de 65 itinéraires qui permettent de dresser une carte remarquable, un réseau, véritable réseau routier de la Lycie, avec des mesures en stade, d'où le nom de Stadiasmos qu'on donne à ce document, on voit que l'inscription revêt aussi une importance capitale sur le plan politique et idéologique. Les Lyciens font amende honorable après les graves troubles sociaux que l'État fédéral n'avait visiblement pas réussi à apaiser, encore moins à régler. Il n'y avait donc pour le Koinon Lukion, un terrible constat d'échec. Cette confédération n'en continua pas moins, durant tout le Haut Empire, et même au-delà, à être maintenue, c'est attesté par une foule d'inscriptions. C'est même pour cette époque qu'on a le plus de documents et des informations, notamment sur la magistrature, dont je n'ai rien dit, car elle est mal connue pour l'époque hellénistique, avec notamment des lysiarques, une belle série de lysiarques, mais c'est où magistrats désormais se recrutent dans un nombre limité de familles, où l'on se flatte d'être descendant de lysiarques, et où apparaissent même, ce qui n'est pas nécessairement bon signe, des lycarchissailles, des femmes lysiarques, car les femmes peuvent accéder désormais, par leur pouvoir, leur richesse foncière en particulier, à cette fonction purement honorifique et en tout cas réservée aux ressortissants de quelques cités seulement. On est donc assez loin de la constitution fédérale et démocratique vantée par Artémidore vers 100 avant notre ère et hissée au rang d'idéal politique par Montesquieu. L'auteur de l'Esprit des lois se serait-il alors totalement mépris en jetant son dévolu sur cette confédération lycienne dont on s'aperçoit qu'elle a été en fait tardivement constituée, sur le modèle achéen très probablement, sans jamais constituer un État pleinement souverain, et en finissant par sombrer aussi lamentablement que le grand Koinon Achaïon. Reprocher à Montesquieu une forme d'aveuglement n'aurait pas beaucoup de sens, compte tenu de ce qu'il pouvait savoir de son temps. Au surplus, malgré toutes les réserves que l'historien épigraphiste peut et doit aujourd'hui apporter à l'idyllique image qu'il en a donnée, le Koinon Lukion, par son système représentatif, par son effort pour organiser harmonieusement la vie des cités, par son respect des traités et, last but not least, par sa longévité, mérite encore, je crois, d'être tenu pour un exemple, sinon pour un modèle absolu, de belle république fédérative. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.